Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, il y a 20 ans est né un espoir, celui d'apporter un traitement aux enfants nés avec une myopathie grâce au développement du génie génétique. À cette même époque, des années 80, l'AFM, l'Association française contre les myopathies, prend une initiative fondatrice, mettre en route le Téléthon, afin de sensibiliser les Français et les pouvoirs publics à cette cause. Le résultat s'avère très positif et chaque année, il bat des records de gains. Et actuellement, donc en 2006, les gains sont de 106 millions d'euros. 10 ans plus tard, une nouvelle étape est franchie dans la recherche puisque l'on assiste au premier test clinique de la thérapie génique. Ainsi, l'espoir de traiter la mucoviscidose, l'hémophilie, les myopathies, ainsi que d'autres maladies, cet espoir donc devient bien réel. En 91, naît le Généthon qui s'illustre très vite avec une découverte clé, la diffusion de la cartographie du génome humain. Et cette découverte permet d'accélérer les recherches de plus de 6 ans. Pour parler avec nous de ce début d'histoire de la thérapie génique, de ses applications et des espoirs de demain, nous recevons l'un des fondateurs de cette nouvelle médecine, le professeur Alain Fischer. Alain Fischer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de quitter l'hôpital Necker pour venir dans notre studio à Canal Académie. Vous êtes professeur de pédiatrie à l'université René Descartes, Paris 5, chef du service immunologie et hématologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris depuis 1996 et directeur de l'unité développement normal et pathologique du système immunitaire de l'INSERM, donc Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, depuis 1991. Enfin, j'ajoute que vous avez été, donc de nombreuses fonctions, j'ajoute que vous avez été directeur de l'Institut des maladies rares à son ouverture en 2002, et cela jusqu'en 2005. Et bien sûr, membre de l'Académie des sciences dans la section biologie humaine et sciences médicales. Alors Alain Fischer, vous êtes connu pour avoir en 99 soigné des enfants qu'on appelle des enfants bulles, c'est-à-dire sans défense immunitaire. Nous en parlerons longuement dans cette émission. Auparavant, peut-être faudrait-il préciser ce que l'on appelle thérapie génique, Alain Fischer.
Certainement. La thérapie génique, deux mots. Thérapie veut dire traitement, ça veut dire qu'on s'adresse à des maladies et non pas à une modification de l'espèce humaine ou de telle ou telle caractéristique des individus. C'est important cette affaire-là, par exemple le dopage, peut-être on va en reparler si vous le souhaitez. Génique, gène, cela veut dire que c'est une thérapie avec les gènes. L'idée étant d'introduire un gène, donc un morceau d'acide nucléique qui permettra, au sein des cellules dans lesquelles on l'aura placé, la fabrication d'une protéine dont on escompte un effet thérapeutique. Cette protéine sera un médicament, idéalement, qui interviendra exactement là où il le faut dans le corps.
Donc l'idée, ce serait de créer de nouveaux gènes sains ou de réparer des gènes malades.
Et on peut envisager deux façons de procéder. L'une, qui est d'ajouter une copie normale d'un gène qui est muté dans une maladie héréditaire, par exemple. Ajouter la copie normale d'un gène parce qu'on en escompte un effet ajouté pour traiter une maladie comme un cancer, par exemple. Et une autre façon de procéder, pour l'instant, n'est pas encore accessible, mais qui est une voie de recherche pour les maladies génétiques, les maladies héréditaires, c'est de faire la chirurgie de gène, c'est-à-dire de modifier, de corriger une mutation d'un gène. Et non pas d'ajouter une copie du gène, mais directement d'agir sur le gène, entre guillemets, malade, c'est-à-dire muté, où la séquence d'ADN est inexacte, pour la corriger.
Quand on parle de thérapie génique, on pense tout de suite au Téléthon et ce qu'il y a derrière. Mais la thérapie génique, ça concerne aussi d'autres maladies. Vous parliez de cancer à l'instant. Il y a également la maladie de Parkinson. Est-ce qu'il y a encore d'autres maladies que l'on pourrait traiter par le biais de la thérapie génique?
En théorie, je dis bien en théorie, parce que de la théorie à la réalisation, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, parfois beaucoup d'embûches. Un grand nombre de maladies pourraient être traitées, ou au moins améliorées, par thérapie génique. On a évoqué les maladies héréditaires, c'est évident. En tous les cas, les maladies héréditaires dites monogéniques, c'est-à-dire où les mutations d'un seul gène sont responsables de la pathologie, la mucoviscidose, la myopathie, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est évident et c'est la première idée qui est venue à l'esprit d'un grand nombre de personnes déjà il y a pas mal d'années. On peut y ajouter le domaine du cancer. On pourrait essayer d'améliorer les défenses immunitaires contre les cellules cancéreuses ou de modifier les cellules cancéreuses pour les rendre moins agressives.
Ah d'accord, ça serait modifier les cellules cancéreuses.
Voilà, on peut y songer, c'est pas évident, mais disons qu'en termes de théorie d'approche possible, c'est un domaine de recherche, c'est pas simple. Et c'est très probable que même lorsque les premiers résultats seront obtenus, ils ne seront jamais pour le cancer comme une thérapeutique unique, mais un élément d'une thérapeutique plus complexe associée à la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, etc. On peut aussi envisager, vous l'évoquiez à propos de la maladie de Parkinson, d'essayer de traiter des maladies dites dégénératives, comme la maladie de Parkinson, ou les problèmes liés à l'athérome, où les vaisseaux se bouchent, que ce soit dans le cœur ou dans les membres inférieurs. Ce sont des voies de recherche qui n'ont pas abouti à ce jour, mais c'est clair que le champ potentiel, encore une fois, potentiel et indispensable, d'action ou d'utilisation de la thérapie génique est vaste.
Alors avant de parler, on en parlera donc vers la fin de l'émission, des espoirs de la thérapie génique, on va peut-être faire une petite histoire, en tout cas les débuts de l'histoire de la thérapie génique. Tout commence dans les années 80 en fait, c'est la révolution médicale avec la découverte du génome humain.
Oui et non, enfin il y a deux notions pour... que la thérapie génique devienne un concept plausible et une voie de recherche. Il faut évidemment la connaissance des gènes. En fait, ça remonte à plus ancien que la connaissance du génome humain, qui est d'ailleurs un petit peu postérieur dans sa globalité, c'est plutôt fin 90, des années 90. Ça a été l'acquisition du fait qu'il y a des gènes, il y a des systèmes qui permettent de réguler l'expression des gènes. Il faut avoir cette notion, maîtriser ce concept et les outils pour envisager une thérapie génique. Et puis, il faut des concepts qui est la notion de vecteur, c'est-à-dire d'un système de transport des gènes pour les faire pénétrer dans les cellules. Sinon, il n'y a pas de thérapie génique. Et les idées sont venues dans les années 70 déjà, lorsque des virus ont été identifiés, dont on s'est rendu compte qu'ils avaient la capacité de permettre d'introduire dans le génome de cellules infectées leur matériel génétique. Donc les gens immédiatement se sont dit qu'on pourrait les utiliser comme
véhicules.
Les détourner. Évidemment, il faut les rendre non dangereux, c'est la moindre des choses, autant qu'on le peut, de telle manière qu'ils puissent servir de système de transport pour introduire dans une cellule, dans un noyau d'une cellule, dans le génome d'une cellule, un gène thérapeutique. Donc l'idée, elle était déjà en l'air à partir des années 70, à partir de l'observation, de la découverte de ces virus.
Le séquençage du génome humain prend plusieurs années. C'est sur une très très longue période que les chercheurs arrivent à établir comme ça notre carte.
Oui, ça s'est passé en une série d'étapes, encore que ça a été remarquablement vite. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'ai été absolument impressionné par l'effort qui a été accompli. D'abord une carte de plus en plus précise, et là des Français ont joué un rôle important dans cette affaire. On peut citer en particulier Jean Weizenbach, aussi Daniel Cohen, qui ont joué au début des années 90 un rôle leader au niveau mondial pour affiner de façon plus en plus précise les cartes du génome. Et plus la carte était précise, plus ensuite il a été facile entre guillemets naturellement, de séquencer ce génome, donc la séquence des nucléotides qui composent le code génétique sous forme de triplet. Donc ça, c'était un effort international avec une organisation extrêmement huilée, et en fait de façon compétitive, parce qu'il y a d'une part un consortium public international et d'autre part une initiative privée américaine, et les deux ont abouti au même résultat, c'est-à-dire la connaissance du génome humain à peu près complètement autour de l'an 2000, disons.
Alors Jean Weizenbach, il faut préciser que c'est aussi un de vos confrères, hein, il est membre
absolument
aussi de l'Académie des sciences.
Absolument.
Et ces informations, donc le séquençage du génome humain, sont disponibles pour tous les chercheurs, hein, je crois, qui fait
absolument
que en fait tout le monde peut travailler dessus, il n'y a pas à payer pour avoir accès à ces informations.
Heureusement qu'il en est ainsi, ça aurait été franchement très regrettable, pour ne pas dire plus, que ces informations ne soient pas accessibles. Elles sont dans des banques de données qui sont accessibles avec des outils d'informatique relativement simples.
Alors, on établit ça à quelle année, en fait? 95?
La publication de la séquence, mais qui n'était pas encore tout à fait complète, mais quasi complète, du génome humain, c'est 2001.
Et 2003, achèvement du séquençage,
ouais,
à peu près.
Donc, ouais, 2000-2001. Après, à la limite, il n'est toujours pas terminé, ce séquençage, parce qu'il y a toujours par-ci, par-là, quelques nucléotides qui manquent. Et puis, il y a toutes sortes de... il ne faut pas imaginer, ça c'est peut-être une notion très importante, que parce qu'on connaît aujourd'hui la séquence du génome humain, on a terminé de travailler. Que ce soit en biologie ou en ce qu'on appelle en génomique, c'est-à-dire l'étude des génomes. Alors, il est extrêmement intéressant d'étudier la variation du génome entre individus, les polymorphismes, et par exemple s'ils s'associent à tel type de maladie, à des prédispositions à telle ou telle pathologie, à telle ou telle infection. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est très intéressant de comparer le génome humain avec, par exemple, le génome des singes, pour voir de quelle façon s'est fait l'évolution. Évidemment, je parle des singes parce qu'immédiatement, ça alerte l'esprit, mais on peut aller bien au-delà de cela. Autrement dit, on peut reconstituer à nouveau une histoire du vivant à travers la comparaison des génomes. Et puis, il y a plein d'autres applications possibles de l'étude par la génomique, de l'étude des génomes, qui sont susceptibles de nous apporter des informations fondamentales en biologie.
Bien avant 2003, qui est donc l'achèvement, en tout cas, et même si vous disiez qu'effectivement, il y avait des petites retouches par-ci, par-là, bien avant 2003, qui établit donc le séquençage du génome humain, ça permet déjà d'identifier les gènes impliqués dans les maladies humaines. C'est l'intérêt, en fait, de découvrir ce séquençage du génome humain.
C'est évidemment un outil extrêmement utile, mais l'identification de gènes associés à des maladies génétiques, en tous les cas les maladies monogéniques, a commencé bien avant la connaissance du génome humain, parce que par un travail d'artisan, on pourrait presque dire de fourmi, avec des méthodes qui au début étaient encore très rudimentaires, des chercheurs de par le monde ont été capables d'identifier des gènes, des mutations de gènes en association avec des maladies. Les premiers résultats vraiment tangibles remontent 20 ans plus tôt, et même d'ailleurs pour certains encore un petit peu plus tôt. Et progressivement, et ce travail n'est pas terminé, il a été possible d'associer tel ou tel gène, d'en identifier la séquence, et de caractériser des mutations, et de comprendre que ces mutations étaient associées avec telle ou telle maladie génétique. Il en existe plusieurs milliers. Aujourd'hui, on connaît l'association gène-maladie monogénique, encore une fois, maladie entre guillemets relativement simple, non pas en termes de gravité, mais simple en termes de déterminisme, pour environ 1500 d'entre elles. Mais il y a encore beaucoup de ces maladies parmi les plus rares pour lesquelles on n'a pas identifié les gènes responsables.
Justement, vous parlez de maladies. À combien on estime le nombre de maladies rares, orphelines ?
À peu près de l'ordre de 5, 6, 7 000, on ne sait pas exactement. C'est des maladies rares. Toutes ne sont pas d'ailleurs d'origine héréditaire, mais beaucoup sont des maladies génétiques monogéniques, donc encore une fois déterminées par des mutations d'un seul gène.
Donc encore
elles sont toutes rares, il y a encore du travail. Et puis surtout, c'est bien gentil d'identifier le gène, les mutations, ça aide au diagnostic, c'est un encouragement fantastique pour les familles, pour les malades, mais ça ne donne pas une thérapeutique. Donc ensuite, il y a un travail considérable à effectuer, qui est un travail qui consiste à relier le gène, la protéine, la fonction de la protéine, le défaut de la fonction de la protéine et la maladie. Donc comprendre ce qui se passe, ce qu'on appelle la physiopathologie, ce qui implique la physiologie, en quoi la protéine codée par ce gène est impliqué dans telle ou telle fonction biologique de telle ou telle cellule, je ne sais pas, les cellules du système nerveux ou les globules blancs ou les cellules muscles du cœur. Est-ce que c'est un récepteur? Est-ce que c'est une protéine qui influence sur l'expression d'autres gènes, etc. Donc ça, c'est un travail considérable qui se fait à l'échelle des cellules, à l'échelle d'organismes vivants des espèces animales. Il y a un énorme travail qui peut prendre des années, voire beaucoup plus, pour comprendre la fonction de ces protéines.
En tout cas, on a bien compris que c'était une révolution en soi, une révolution scientifique, hein, cette découverte. Là, on parle de recherche fondamentale. Là, pour le coup, on associe réellement la recherche fondamentale à la recherche appliquée. On arrive tout de suite à voir les applications possibles. Est-ce qu'en cela, c'est aussi une révolution vis-à-vis du regard du grand public, c'est-à-dire qui, pour le coup, voit tout l'intérêt qu'il y a au niveau de la recherche fondamentale?
Oui, je pense qu'on peut assez facilement faire le lien entre connaissance du génome humain et maladie, parce que chacun a des degrés variables, mais a une certaine notion de l'idée de gène, de maladie génétique, et fait le rapprochement, c'est quelque chose qui est relativement intuitif. Cela dit, les choses sont dans la réalité un petit peu plus compliquées que cela. Évidemment, le schéma classique qui est présent dans l'esprit de la plupart des gens, c'est de considérer que la recherche fondamentale et que de la recherche fondamentale naissent des applications qui, de temps en temps, au bout d'un certain temps, aboutissent à des progrès, notamment dans le domaine de la médecine, au moins des progrès diagnostiques, éventuellement des progrès thérapeutiques. Les choses sont un peu plus subtiles, à mon avis, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une histoire d'aller-retour permanent. En tous les cas, lorsque la problématique touche autour de l'homme, parce que souvent, pas toujours, mais des recherches, en tous les cas, c'est typiquement le type de recherche que nous menons dans notre groupe, où le point de départ est une maladie, donc une maladie génétique, mettons. On cherche à caractériser le mieux possible ce qui se passe, le phénotype, comme on dit, associé à cette maladie. À partir de là, éventuellement, on aboutit à l'identification d'un gène. Donc, on est passé du lit du malade, pratiquement, au laboratoire. Et on va étudier la fonction de ce gène à travers des souris dont on a invalidé l'expression du gène, par exemple. Donc là, on est dans une problématique potentiellement fondamentale de connaissance pure. À quoi sert cette protéine et comment on peut l'analyser, par exemple, dans une souris qui n'exprime pas ce gène. Et puis ensuite, on va, à partir de cette connaissance, éventuellement retourner vers le malade, si je puis dire, en se disant qu'on a déduit, on a compris éventuellement, ça arrive parfois, le mécanisme de la maladie, que ceci nous aide à mieux définir la maladie elle-même, donc à la diagnostiquer, à mieux apprécier le pronostic de cette maladie, son degré de gravité, et avec une grande variabilité parfois d'un malade à l'autre au sein de la même maladie, et puis à définir une thérapeutique. Donc c'est un aller-retour permanent. Donc les choses sont un petit peu plus complexes dans la réalité, mais ça les rend en fait plus passionnantes.
Alors, dans la seconde partie de notre émission, nous allons parler d'un exemple concret, pour le coup, pour mettre en application ce que vous venez de nous dire. Nous parlerons donc des enfants bulles, hein. C'est donc le traitement que vous avez pu octroyer à ces enfants, ces jeunes patients, à l'hôpital Necker Enfants Malades. Auparavant, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Oscar et la Dame en Rose, Odette Tout le Monde ou encore Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Éric Emmanuel Schmitt est un auteur de talent et de succès qui se livre au cours de 4 entretiens en compagnie de Virginia Crespo. Éric Emmanuel Schmitt, 4 émissions parcours à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
suite de notre émission Éclairage en compagnie d'Alain Fischer. Alain Fischer, avec vous, donc dans cette seconde partie, nous allons pouvoir parler d'un exemple concret de la thérapie génique. Et en l'occurrence, c'est votre expérience à vous qui débute en mars 99. Vous allez pouvoir traiter des enfants qui ont une déficience immunitaire et que l'on appelle plus couramment des enfants bulles.
Oui, alors 1999, c'est l'année des premiers traitements, mais l'année des premiers efforts remonte, à vrai dire, quasiment 20 ans plus tôt. Et c'est toute la phase de compréhension qui a été très, très progressive, très lente, comme toujours beaucoup trop lente, de l'identification de la maladie, la compréhension de son mécanisme à partir de l'identification du gène, de la compréhension, ça c'est très important, du fait qu'en analysant bien, je crois, le mécanisme de la maladie, on a compris que c'est une maladie dont on pouvait espérer que la thérapie génique permettent de la contrôler, de la corriger plus exactement, ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup d'autres maladies. Donc c'est une situation favorable, et ça c'était un point clé, absolument clé dans l'initiative qui a suivi. Et ensuite une phase de recherche qui prend plusieurs années d'une équipe avec beaucoup de monde pour mettre au point les systèmes de transport des gènes et qui aboutissent en 99 au traitement de malades. Donc ces bébés bulles, ce sont des enfants qui naissent avec une maladie génétique qui a pour conséquence la déficience complète d'une catégorie de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T en particulier, qui sont absolument centraux dans la défense contre toutes sortes de micro-organismes. Et malheureusement, naître sans lymphocytes T, c'est en l'absence de thérapeutique, être voué à la mort au bout de quelques mois
en
raison d'infections multiples.
Ça touche combien d'enfants? Parce que je suppose que c'est quand même une maladie assez rare, on l'estime à combien?
Ce type de maladie, en fait, il y a plusieurs maladies qui provoquent les mêmes conséquences. Ce sont des maladies rares qui touchent environ, dans les formes absolument les plus complètes, les plus sévères, une dizaine d'enfants par an. En France, et l'ordre de grandeur est assez faible.
Et c'est des enfants qui, sans traitement, donc vous disiez, donc vivaient quelques mois, avaient une espérance de vie de quelques mois. Et je suppose qu'en vivant sous bulle, l'espérance était déjà prolongée, l'espérance de vie était prolongée.
Alors la bulle, entre guillemets, c'est une enceinte stérile, transparente, d'où l'image de la bulle, permet à ces enfants de vivre à l'abri des microbes de l'environnement, mais il y a eu la période de leur vie où, avant d'entrer dans la bulle, ils ont été en contact avec des microbes. Donc de toute façon, il faut un traitement. Si on n'est pas capable de leur offrir un traitement, malheureusement, ils décéderont. Donc la thérapeutique mise au point il y a 40 ans, oui, c'est quelque chose de relativement ancien, déjà pour ces maladies, dans les cas favorables, était ce qu'on est toujours, ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse, parce que la moelle osseuse au sein de nos os contiennent les cellules souches qui donnent naissance à ces fameux lymphocytes. Donc en greffant des cellules d'un individu sain, naturellement, et compatible pour les groupes tissulaires, on a une bonne chance de corriger ce type de maladie.
En l'occurrence, dans cet exemple concret donc des patients que vous avez traités en 99, vous preniez donc un enfant malade et puis vous alliez récupérer la moelle osseuse de son père, de son frère,
alors,
de sa sœur.
Si on fait une greffe de moelle osseuse, on prend la moelle osseuse, donc les cellules de la moelle osseuse plus exactement, d'un individu différent, le plus proche possible parce que c'est là qu'on a la meilleure chance de trouver quelqu'un de compatible. Donc la bonne compatibilité, on la trouve avec une chance sur quatre chez un frère ou une sœur, ce qui fait que la probabilité...
C'est une sur quatre quand même la probabilité.
Par individu.
C'est peu, oui.
C'est faible. Donc globalement, la probabilité pour un enfant malade d'avoir dans sa famille un frère ou une sœur qui doit être évidemment bien portant et qui a reçu les mêmes groupes tissulaires HLA que lui ou elle est de l'ordre de 20%, donc compte tenu de la taille des familles. Parce que les familles en France, c'est pas, rarement plus de deux enfants. Donc il y a très peu d'enfants qui puissent bénéficier de cette situation favorable. En l'absence de cette situation favorable, la façon de procéder depuis une vingtaine d'années consiste à faire une greffe partiellement compatible. Ça implique des mesures particulières, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dont les résultats, malheureusement, sont nettement moins bons. D'où l'idée de développer une thérapeutique alternative et la thérapie génique, où cette fois-ci, on utilise non pas les cellules de quelqu'un d'autre, mais les propres cellules du malade.
Donc, en fait, finalement, ce malade a les bonnes cellules, simplement, il faut les activer, en quelque sorte.
Il a les bonnes cellules précurseurs, donc dans la moelle osseuse, celles qui sont capables de donner naissance aux lymphocytes, sauf qu'il y a quelque part dans le génome de ces cellules une mutation qui les empêche de se différencier, de donner naissance aux
fameux lymphocytes. Qu'ils empêchent de s'exprimer.
Oui, c'est-à-dire que ces cellules, lorsqu'elles reçoivent certains signaux, elles se mettent à se diviser, elles donnent naissance à un très grand nombre de cellules qui se différencient, qui se modifient, et ça se passe dans le thymus, elles sortent de la moelle osseuse, elles vont dans le thymus, à la partie supérieure du thorax, et là, elles donnent naissance à des cellules qui vont ensuite dans le sang et dans les organes lymphoïdes, que l'on appelle les lymphocytes T.
Alors, ce jeune patient que vous avez traité et qui a reçu ses propres cellules, le 13 mars 99, c'est une date que vous avez retenue et qui, à mon avis, restera très longtemps gravée dans votre mémoire. Qu'est-il devenu?
Peut-être qu'il faut dire un mot sur comment ça s'est fait.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ces cellules ont été prélevées sous anesthésie de sa moelle osseuse. On a purifié les précurseurs capables de potentiellement donner naissance à des lymphocytes. Et on a introduit dans ces cellules, on les a infectées avec un virus qui qui était rendu inoffensif et qui apporte une copie normale du gène qui est muté chez ces malades. Et l'idée et la réalité est que dans certaines de ces cellules, le virus permet d'introduire dans le génome de ces cellules le gène sain. Donc on ajoute une copie saine du gène muté chez les malades et qui va pouvoir être répliqué, donc copié, à chaque division de la cellule. Donc toutes les cellules filles issues d'une cellule corrigée vont être elles-mêmes corrigées. Et donc ces cellules, elles sont ensuite réinjectées au malade au bout de quelques jours, sous une simple transfusion par voie intraveineuse. Et après, il faut les laisser faire leur boulot, c'est-à-dire se développer, ce qui prend du temps.
Et ce traitement, c'est sur combien de temps? Sur 6 mois? Sur 1 an? Sur plusieurs années?
Le traitement lui-même, ça se fait une fois.
Oui, c'est un...
On prélève les cellules, on les réinjecte 4-5 jours plus tard. Et les effets, combien de temps ça prend pour observer un effet patent, c'est quelques mois, 3 mois environ. Et l'espoir, c'est que ce traitement ait un effet persistant.
Et oui, donc, est-ce qu'il faut recommencer?
Alors, est-ce qu'il faut recommencer? Nous espérons que non, mais seul l'avenir permettra de le dire. Si on prend l'exemple concret du premier patient traité il y a maintenant un petit peu plus de 8 ans, à ce jour, 8 ans plus tard, il a toujours, grâce à cette thérapeutique, dans son sang, dans ses organes lymphoïdes certainement, des fameux lymphocytes T, qui ont pu se différencier, qui fonctionnent et qui permettent à cet enfant de combattre efficacement les microbes qui sont susceptibles de l'infecter. Donc j'espère qu'il ne faudra jamais recommencer, mais je ne peux pas en être sûr. Nous n'en sommes pas sûrs tant que le temps ne sera pas passé. L'expérience est acquise progressivement.
Combien de jeunes patients ont succédé à ce premier essai clinique, puisque c'était un essai?
Absolument, nous sommes dans le cadre de la recherche médicale, avec toute sa réglementation, toutes les précautions qui doivent être prises et qui sont naturellement importantes. Et nous avons traité dans cet essai thérapeutique 10 malades. Ensuite, une équipe britannique a également traité 10 malades pour la même maladie. Et donc notre thérapeutique a été, pour les patients que nous avons traités, était directement efficace 9 fois. Les Britanniques l'ont été à chaque fois, donc c'est un résultat qui est globalement... tout à fait encourageant, avec donc la confirmation dans 2 endroits différents que cette approche peut fonctionner. Néanmoins, on n'est pas au bout de nos peines parce que, au-delà de l'efficacité, malheureusement, nous nous sommes aperçus que cette thérapeutique pouvait entraîner un effet secondaire toxique qui n'est pas négligeable parce qu'il s'apparente à une forme de cancer, donc est une complication sérieuse qui a dû être analysée, a dû être traitée et a pour conséquence que les essais thérapeutiques ont été interrompus et de temps de comprendre, d'améliorer la façon de procéder pour pouvoir les reprendre.
Quel type de cancer? Cancer apparenté, leucémie peut-être?
C'est ça, il s'agit de cancers des lymphocytes eux-mêmes, des cellules qui ont été corrigées, mais qui sont déréglées dans leur capacité de se diviser, parce que ce qui se passe, c'est qu'en s'insérant dans le génome de la cellule, le matériel génétique du virus peut éventuellement entraîner le fait qu'un gène qui est situé juste à côté de l'endroit dans le génome où ce matériel s'implante, soit dérégulé et s'exprime de façon continue. S'exprimer, ça veut dire qu'il produise en permanence l'ARN messager et la protéine qui est issue de cet ARN messager. Et s'il se trouve, ce gène est un oncogène, ça veut dire un gène qui est impliqué dans des processus, par exemple, de division cellulaire. Donc si son expression permanente favorise la division des cellules, ça veut dire qu'elles vont se diviser sans contrôle. On se rapproche d'un processus cancéreux. Donc ce risque, on le connaissait sur un plan théorique, on l'avait, nous et d'une manière générale la communauté scientifique, sous-estimé parce que les informations n'ont pu être recueillies de fait qu'en traitant les malades. Donc nous le connaissons mieux aujourd'hui, nous le comprenons et nous espérons que la parade est à peu près maîtrisée et qu'elles vont permettre de reprendre des essais thérapeutiques prochainement avec un système où ce risque soit anéanti, annihilé, sûrement pas, ça n'existe pas en médecine, mais en tous les cas réduit de façon telle que le rapport classique en médecine entre le bénéfice et le risque soit clairement en faveur du bénéfice et qu'il vaille la peine de traiter d'autres malades.
Alors, pour terminer sur cet exemple concret du traitement des enfants bulles, comme vous l'avez expliqué, ce sont donc des essais cliniques. Alors, je suppose que ça ne devait pas être forcément évident. Quel est le processus juridique et pour persuader les parents, quel est l'accompagnement humain qui va avec ces essais cliniques?
Vous mettez le doigt sur un point qui est essentiel, qui n'est pas spécifique à la thérapie génique. Il est essentiel à toute la recherche médicale. Si on veut que celle-ci se fasse d'une façon rigoureuse et éthique, la rigueur d'ailleurs faisant partie de l'éthique, c'est-à-dire qu'elle permette le progrès scientifique, le progrès des connaissances, et qu'elle se fasse dans le respect des malades, il faut qu'elle soit encadrée d'une façon très stricte. Ça veut dire qu'il faut d'abord, sur un plan purement scientifique, les efforts entrepris au laboratoire, d'une manière générale, pour démontrer un potentiel d'efficacité et que les risques, autant qu'on puisse les juger à travers les éléments scientifiquement disponibles, sont raisonnables par rapport à la gravité de la maladie, par rapport à ce qui peut être proposé en alternative, que ces risques donc soient suffisamment faibles pour qu'on puisse considérer que cette thérapeutique puisse être entreprise chez des malades. Donc ça, d'abord, évidemment, c'est aux investigateurs eux-mêmes de l'évaluer pour eux-mêmes, mais on ne peut pas se contenter de leur propre jugement. Donc ceci est évalué par une série de commissions. En fait, dans le domaine de la thérapie génique, c'est particulièrement régulé. Il y a les régulations qui concernent tous les essais thérapeutiques. C'est la fameuse loi Hurier qui date maintenant d'il y a un peu moins de 20 ans, qui fait que pour entreprendre une recherche sur l'homme, l'être humain en général, et l'enfant en particulier, bien sûr, il faut obtenir une autorisation. Et ces autorisations dans le domaine de la thérapie génique sont particulièrement strictes, c'est-à-dire qu'elles impliquent l'étude très approfondie de systèmes de vecteurs qui sont utilisés, c'est leur dangerosité éventuelle, en plus de l'analyse a priori par des experts du domaine de la relation bénéfice-risque potentiel avec à l'état des connaissances au moment où le protocole est proposé.
Donc pour les parents, en l'occurrence, ça ne posait pas de problème. Bien au contraire, je suppose qu'ils sont demandeurs quand leur enfant est malade.
C'est une situation difficile si on réfléchit un tout petit peu, parce que ces parents, comme vous le dites, sont demandeurs, sont assoiffés d'espoir par définition pour que leur enfant soit sauvé. Donc ils ne sont pas forcément dans la position la plus juste en termes d'objectivité pour donner ce qu'on appelle le consentement informé. Consentement informé, ça veut dire que les gens consentent à ce que leur enfant, dans le cas présent, reçoive une thérapeutique expérimentale. Informé, ça veut dire qu'ils ont reçu tous les éléments d'information qui leur permettent, en âme et conscience, de juger le plus objectivement possible. Vous imaginez bien facilement que, étant parent d'un enfant atteint d'une maladie grave, c'est pas facile de se retrouver dans cette situation. Donc nous devons faire attention à cela, autant que nous-mêmes puissions être objectifs. Il est toujours bon de faire intervenir des collègues médecins qui sont un tout petit peu à distance de l'essai lui-même, qui ne sont pas directement impliqués pour donner des conseils, pour évaluer le bien fondé et la façon dont les familles ont été informées de ces possibilités. Et les documents, en tous les cas, et la procédure est elle-même évaluée par ce qu'on appelle un comité, ça s'appelait à l'époque un CCPPERB, un comité d'éthique. En pratique, c'est compliqué. Mais un comité d'éthique qui réunit à la fois des hommes de la société, de tous ordres de pensée ou de compétences, et des médecins et des chercheurs, et qui évaluent si les conditions dans lesquelles sont proposées ces thérapeutiques sont raisonnables.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Alain Fischer, et puis nous parlerons dans cette troisième partie peut-être des recherches actuelles ou des travaux en cours, des espoirs qu'ouvrent ces premiers essais cliniques, et puis peut-être également du débat sur les cellules souches et le travail sur les embryons. Et puis nous reviendrons peut-être sur le dopage, puisque vous nous en avez parlé au tout début de cette émission.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Academy. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Academy, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie d'Alain Fischer. Avec vous, Alain Fischer, nous parlons de l'histoire de la thérapie génique. Alors, nous avons avancé. Dans cette seconde partie, nous avons parlé d'un exemple concret, en l'occurrence, vos essais cliniques sur des enfants atteints de déficience immunitaire, qu'on appelle enfants bulles, qui se sont avérés quand même positifs, hein. 9 cas sur 10 positifs. Dans cette troisième partie, nous allons pouvoir parler peut-être des autres travaux en cours, parce que je suppose quand même que vous travaillez sur d'autres cas. Sur quelle maladie travaillez-vous actuellement, Alain Fischer ?
Alors, il faut bien considérer que la thérapie génique est vraiment un domaine de la recherche médicale tout neuf, ou balbutiant, vraiment balbutiant. On peut vraiment prendre l'adjectif pratiquement au sens le premier du mot. Aujourd'hui, si on regarde ce qui a été fait dans le monde, combien de maladies une thérapie génique efficace a été chez l'homme ? Chez des animaux, a été obtenu, en fait, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a une deuxième forme de déficience immunitaire, très proche de celle que nous avons traitée, mais qui concerne un autre gène et un mécanisme un petit peu différent, qui a été traité avec efficacité par une équipe en Italie et aussi un petit peu en Grande-Bretagne. Ça fait 11 malades à ce jour, donc c'est très peu. Il y a des résultats encore extrêmement préliminaires qui concernent une maladie génétique de la peau très très grave chez un malade, mais un résultat très spectaculaire qui a été rapporté dans la presse scientifique en 2006.
Les enfants de la Lune ? Non, rien à voir.
Non, c'est les enfants où l'épiderme se décolle du derme. On appelle ça une épidermolyse bulleuse. Il y a plusieurs formes de ces maladies qui sont assez dures. Chez un malade, dans une circonstance particulière, donc il faut être extrêmement prudent, avec un recul de 1 an, mais c'est déjà cela, il a été possible de corriger, de réparer une partie de la peau de ces malades, de ce malade. Donc vous voyez que c'est extrêmement préliminaire. Mais enfin, ce sont des résultats tangibles et qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on en est au stade où ce petit nombre d'essais positifs apporte ce qu'on pourrait appeler une preuve de principe qu'une thérapie génique peut être efficace. Maintenant, pour pouvoir envisager une extension à un beaucoup plus grand nombre de maladies, là, c'est une autre affaire, parce que, évidemment, les situations qui ont bénéficié de cette thérapeutique à ce jour sont des situations privilégiées, où le contexte médical, scientifique, fait qu'on savait à l'avance qu'il y avait beaucoup plus de chances de succès que pour d'autres pathologies. Donc l'extension à d'autres maladies va prendre beaucoup de temps, va nécessiter une amélioration considérable des outils de transfert de gènes, comme on dit, c'est-à-dire des systèmes de vecteurs, notamment, qui permettent d'apporter les gènes dans les cellules, de cibler les cellules, d'éviter que dans les cellules, il y ait des réactions qui soient négatives, toxiques. On en a parlé d'une tout à l'heure, mais il peut y en avoir d'autres, par exemple, de réponses immunitaires dirigées contre le virus vecteur ou contre la protéine apportée par le virus. Donc, toutes ces questions sont l'objet de recherches. En ce qui nous concerne, vous me posez la question de nos recherches, nous travaillons strictement sur les maladies du système immunitaire, parce que fondamentalement, je suis un immunologiste et pas un spécialiste de toutes les thérapies géniques. Donc, on travaille sur des maladies proches de celles que nous avons traitées, avec l'espoir de pouvoir mettre en œuvre également des thérapeutiques en améliorant les outils naturellement. Et aussi, je l'ai déjà évoqué, le fait de développer ces thérapeutiques de façon plus sûre que ce que nous avons pu faire aujourd'hui. C'est déjà pas mal pour ce qui nous concerne. Donc d'autres équipes de par le monde travaillent sur un certain nombre de maladies génétiques, notamment des maladies qui touchent les cellules de la moelle osseuse, donc les maladies qui touchent donc en pratique l'usine à fabriquer les cellules du sang, parce que c'est une situation relativement privilégiée dans la mesure où on a un accès pas trop compliqué aux cellules souches qui sont fondamentales parce qu'elles permettent, si on les corrige, d'avoir un effet durable pour toute la vie.
Donc corriger les hémophilies, par exemple.
Hémophilie, non, c'est pas tout à fait pareil, parce que l'hémophilie, c'est pas exactement une maladie de la moelle osseuse, même si ça touche le sang, mais c'est le sang à travers la coagulation et non pas les cellules. Mais par exemple, il y a des travaux de recherche, je parle de recherche concernant les maladies génétiques des globules rouges, la drépanocytose, la thalassémie, les déficits immunitaires, on l'a évoqué, ou des maladies génétiques plus compliquées qui touchent les macrophages. Les macrophages sont l'espèce de cellules qui avalent les débris de notre corps. Il y en a un peu dans tous nos tissus, mais si on arrive à faire exprimer par les macrophages des protéines déficientes, ça peut permettre d'apporter ces protéines dans des tissus, y compris dans le système nerveux. Donc ça peut être intéressant pour certaines maladies génétiques qui touchent le cerveau, notamment des maladies dites de surcharge où des substances toxiques s'accumulent. Donc il y a des travaux de recherche précliniques, comme on dit, avant le traitement de malades, qui sont en cours pour beaucoup de ces maladies. Il y a un foisonnement de recherche, des résultats encore modestes. C'est extrêmement difficile, il faut beaucoup de patience, beaucoup de difficultés, d'obstacles technologiques à résoudre pour arriver à des résultats tangibles.
Alors, ma question suivante va un peu s'écarter effectivement de votre domaine de compétence, puisque vous êtes effectivement immunologiste, mais par exemple sur les myopathies et la mucoviscidose, qui sont des maladies qui sont rares, mais qu'on entend quand même assez régulièrement. Mmh. Je reprends encore cet exemple du Téléthon. Est-ce que, pareil, avec le domaine de la thérapie génique, il y a des espoirs concret, si j'ose dire?
Bon, ce sont des maladies difficiles à traiter par le transfert de gènes, mais il y a des recherches dans ce domaine.
Ce ne sont pas des maladies monogéniques pour le
coup? Ce sont des maladies monogéniques, absolument. Il y a différents types de myopathie, mais à chaque fois, c'est un gène qui est muté qui fait que malheureusement, les muscles ne fonctionnent pas bien. La mucoviscidose est une maladie monogénique, c'est même la plus fréquente en France, qui fait que, par exemple, les cellules épithéliales qui bordent l'arbre respiratoire ne fonctionnent pas bien et que ça entraîne un encombrement progressif des poumons. Donc ce sont des maladies monogéniques. Donc sur ce plan, l'idée d'apporter une copie normale du gène muté reste valable comme thérapeutique. Mais il y a des difficultés intrinsèques qui sont différentes et qu'il faudrait évoquer maladie par maladie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche. Il y a d'ailleurs déjà eu des tentatives de traitement de malades, mais qui pour l'instant n'ont pas été concluants, que ce soit pour l'un ou l'autre de ces maladies. Il y a des espoirs réels, de trucs entre guillemets qui ont été mis au point pour, par exemple, faire qu'à partir d'un gène qui est anormal, qui a une mutation, de faire que le produit du gène, l'ARN messager, qui va être produit par la cellule, soit légèrement modifié, de telle manière que le morceau anormal soit enlevé, et que le reste, même si ça ne permet pas de fabriquer une protéine tout à fait normale, soit une protéine presque normale et suffisante. Donc ce truc-là, ça s'appelle le saut d'exon, est une approche possible pour certaines formes de myopathie, par exemple. Donc il n'est pas exclu que tôt ou tard une telle thérapeutique puisse être efficace, mais il y a des obstacles à résoudre qui n'ont pas encore été résolus. En particulier, je prends juste un exemple que je connais bien parce que c'est du domaine de l'immunologie, c'est que dans ces situations-là, malheureusement, les vecteurs qui sont utilisés pour apporter le gène sont constitués de virus à l'égard desquels nous sommes déjà immunisés ou nous avons rencontré, parce que ce sont des virus qui nous infectent. Ce sont les virus efficaces chez l'homme, ce sont des virus qui nous infectent. Donc nous avons tous des anticorps contre ces virus. Donc dès qu'on va injecter, que ce soit dans l'arbre respiratoire, dans le sang, dans les muscles, le virus en question, la réponse immunitaire va se faire très forte, qui risque, c'est pas sûr complètement, mais qui risque d'éliminer les cellules qui ont été corrigées. Donc il faut arriver à contrôler ce phénomène. C'est pas simple.
Trouver un virus que notre corps ne connaît pas.
Soit trouver un virus que nous n'avons jamais rencontré, ce qui permettra au moins transitoirement, évidemment ça finira par venir, mais transitoirement, faire qu'il soit accepté par le corps. Soit trouver une parade en réduisant un peu la réponse immunitaire du patient, comme on fait pour les greffes, hein, les greffes de reins, de cœur, etc., de telle manière qu'il ne rejette pas les cellules corrigées. C'est une voie de recherche en soi. Si on arrivait à résoudre ce problème-là, ça permettrait une extension non négligeable des thérapies géniques. Vous parliez tout à l'heure d'hémophilie. C'est un exemple où on sait que la thérapie génique serait efficace s'il n'y avait pas la réponse immunitaire contre les protéines du virus qui apportent le gène, par exemple, du facteur 9 de la coagulation. Cela a été démontré chez l'homme, indépendamment de ce qui a pu être testé chez l'animal. Donc, bon, tôt ou tard, ces parades seront trouvées, mais ça implique encore des efforts de recherche.
Tôt ou tard, c'est-à-dire,
bien sûr,
ce sont des projections, mais dans le futur, on pense avoir des résultats dans 10 ans, dans 30 ans, on ne peut pas du tout établir. Même pour les enfants atteints de déficience immunitaire, où là, pour le coup, les essais cliniques ont été faits.
Non, mais il n'y a pas une réponse globale à votre question. La réponse, il faut essayer de la porter maladie par maladie. Il y a des cas où c'est absolument évident, on n'y arrivera pas. En tous les cas, on ne peut pas l'envisager même pour l'instant. Il y a des situations où on peut l'envisager, ou même y travailler sérieusement. Vous avez évoqué les déficits immunitaires qui sont une des situations les moins difficiles. Et puis, les situations intermédiaires, toutes sortes de situations intermédiaires. Ce qui fait que dans la recherche thérapeutique, à propos de ces maladies, il faut considérer la thérapie génique, mais il faut considérer les alternatives. Il ne faut pas imaginer que la thérapie génique est la solution pour chacune de ces maladies, loin de là. Heureusement, il y a plusieurs approches possibles. Il y a les médicaments classiques et les molécules chimiques qui l'ont heureusement loin d'avoir fini d'apporter de nouvelles solutions pour telle ou telle maladie, y compris des maladies génétiques. Il y a les thérapies cellulaires avec les cellules souches et il y a la thérapie génique. Donc, pour chaque maladie, on verra bien quelle est la meilleure approche, celle qui donnera les meilleurs résultats. Mais la thérapie génique, il faut vraiment la considérer comme une approche de recherche, mais une approche évidemment intéressante, difficile, mais une approche parmi d'autres. Pas l'approche unique.
Alors, nous parlons de recherche. Un débat s'est ouvert l'année dernière, en 2006, à l'occasion toujours du Téléthon. Vous allez me dire que je fais souvent référence, mais en même temps, c'est normal. C'est le moment où, en fait, on parle le plus de recherche sur la génétique. Au moment donc de ce Téléthon 2006, s'est ouvert le débat des cellules souches embryonnaires et la question de savoir s'il était bon ou pas, moralement, éthiquement, valable de travailler et possible de travailler sur des cellules souches embryonnaires dans le cadre de maladies génétiques. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Si je peux me permettre de reprendre votre propos, le débat a rebondi à l'occasion du Téléthon parce que certains ont voulu utiliser le Téléthon comme caisse de résonance pour faire valoir leurs arguments en opposition à cette approche de recherche qui avait été largement débattue en France dans les années passées et qui a abouti à une modification de la loi de bioéthique.
En 2004.
Qui a été votée en 2004. Donc, aujourd'hui, depuis 2004, enfin, pas exactement depuis 2004, la loi a été votée en 2004, les décrets ont été passés en début d'année dernière, 2006, qui permettent, sous des conditions assez restrictives, mais de faire une recherche sur les cellules souches embryonnaires à partir d'embryons congelés pour lesquels il n'y a plus de projet parental. Donc là, on part d'une situation qui est celle de la fécondation in vitro, qui est nécessaire pour certains couples qui ont eu de tel ou tel problème de stérilité pour avoir des enfants. Et puis, il y a beaucoup plus d'embryons qui sont ainsi générés que d'embryons finalement réimplantés. Donc, il y a des dizaines de milliers d'embryons qui sont congelés et pour lesquels on sait que jamais ils ne seront réimplantés. Donc, l'idée est que si le couple, et on est d'accord, naturellement, c'est évident qu'il doit donner son autorisation, ces cellules, un embryon congelé, quelques cellules, il ne faut pas imaginer un être constitué. Ces cellules puissent être utilisées pour la recherche. Alors, pourquoi y a-t-il un intérêt pour ces cellules ? C'est donc dans un embryon au stade de quelques jours après la fécondation.
Une division cellulaire.
Ces cellules sont divisées, se constitue une petite cavité. Et à la base, il y a une masse interne de cellules, on appelle ça le blastocyste. Petit nombre de cellules, c'est un stade où l'embryon est constitué de 128 à 256 cellules, mais c'est très peu. Donc, il y a des cellules qu'on appelle les cellules souches embryonnaires, qui ont la capacité, et d'ailleurs in vivo, c'est ça qui va se passer, de donner naissance à tous les tissus possibles, tous les types de cellules possibles. Et ces cellules, on a aujourd'hui la capacité de les maintenir en vie indéfiniment au laboratoire en bloquant leur différenciation. Et à façon ensuite, en utilisant telle ou telle substance, d'induire leur différenciation en cellules nerveuses, en cellules musculaires, en cellules sanguines, etc.
De se composer un pack de cellules sanguines,
C'est ça l'idée. Ah, évidemment, ça, c'est de fait, on peut y arriver, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces cellules pour traiter des maladies. Mais il y a là une approche intéressante, parce que peut-être qu'un jour, à condition de mener ces recherches, si on ne les mène pas, il n'y a aucune chance d'y arriver, on arrivera ainsi à dériver à façon des cellules nerveuses pour traiter des maladies du système nerveux, des cellules musculaires pour traiter des maladies du muscle, et ainsi de suite, des cellules pancréas pour traiter des diabètes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que ce soit des maladies génétiques ou des maladies dégénératives. Évidemment, il y a plein de questions scientifiques qui ne sont pas résolues. Il ne faut pas que les auditeurs considèrent que demain, on va utiliser ces cellules pour traiter telle ou telle maladie. On en est encore très loin, parce qu'il faut savoir maîtriser complètement le processus de développement, de différenciation dans tel ou tel tissu. On sait que ces cellules, si on les injectait telles quelles, elles seraient cancéreuses. Donc, il faut arriver à complètement faire disparaître le risque de cancer. Et puis, cet embryon, il provient d'un être potentiel qui n'est pas génétiquement compatible avec le receveur éventuel. Donc, on retombe sur des questions d'immunologie à nouveau. C'est-à-dire que les groupes tissulaires ne sont pas les mêmes. Donc, les cellules de l'embryon qui auront été différenciées pourraient être rejetées.
Et qu'est-ce qui se passe quand il y a possibilité de rejet
d'une cellule? Il y a rejet, il y a mort des cellules. Et puis voilà, donc on perd le bénéfice. Donc, il faut aussi travailler sur ces questions. On retombe sur les questions analogues à celles de la transplantation. Est-ce qu'on peut modifier ces cellules pour éviter le rejet? On n'en sait rien, mais autant de voies de recherche qui vont prendre beaucoup de temps, mais qui impliquent qu'il y ait des efforts, évidemment, qui doivent être faits de façon très sérieuse et rigoureuse, mais pour mettre au point, pour connaître d'abord la façon dont, sur un plan physiologique, ces cellules sont capables de donner naissance à telle ou telle lignée cellulaire, que ce soit des cellules du muscle, de telle ou telle partie du cerveau, etc., etc. C'est très compliqué. Et aussi, commencer à envisager les applications thérapeutiques après, et de voir de quelle manière ces cellules pourraient être tolérées. Ce qui fait qu'il y a encore peut-être une alternative qui serait en théorie plus intéressante, mais qui est plus lointaine, qui est ce qu'on appelle parfois le clonage thérapeutique, ou plus justement le transfert de noyaux, qui permettrait de générer des cellules qui ne seraient pas rejetées. Mais on ne sait pas le faire chez l'homme pour l'instant. C'est le faire chez l'animal seulement.
Alors, pour terminer cette émission, nous allons revenir au sujet que vous avez évoqué au tout début de notre émission, à savoir le dopage par le biais de la thérapie génique. Alors, comme c'est un sujet qui est dans l'air du temps, hein, puisque le cycliste qui a gagné le Tour de France l'année dernière, apparemment, a été consommateur de produits dopants. C'est bien, on va pouvoir peut-être en parler juste pour terminer l'émission, sur une note très positive, ma foi.
Je suis pas sûr.
Vous parliez de thérapie génique dans le domaine du dopage.
Je pense qu'il faut réfléchir sur l'éthique de l'affaire. D'une manière générale, la thérapie génique, comme n'importe quelle nouvelle façon de procéder en médecine, nouvelle thérapeutique, peut avoir une utilisation pertinente, justifiée, et des applications non médicales, qui peuvent être améliorer les performances sportives, donc le dopage. Après tout, pourquoi pas améliorer, en théorie, hein, les performances intellectuelles, améliorer l'esthétique des gens, enfin, on peut imaginer n'importe quoi. Là, on est dans un domaine qui fait qu'il est absolument indispensable qu'existe une réglementation rigoureuse qui contrôle toutes les recherches médicales dans ce domaine. Mais c'est vrai pour d'autres domaines, encore une fois. Le dopage actuel, il se fait avec des hormones, des médicaments, etc., etc. Mais il pourrait se faire demain avec la thérapie génique, par exemple, en implantant dans le muscle un vecteur qui apporte l'érythropoïétine, qui s'injecte de temps en temps, donc il y a une production à contrôler ou pas d'érythropoïétine ou de toute autre substance d'intérêt pour le dopage.
Donc, avec aucun moyen de vérification actuellement.
Il y a quelques moyens, en fait. Il y a des petites modifications des protéines en termes de la façon dont les sucres sont ajoutés pour celles qui sont sucrées, ce qui est le cas de l'érythropoïétine, qui permettent de détecter l'endogène par rapport à ce qui serait le produit d'une thérapie génique. Mais c'est un vrai problème. Je sais que le Comité olympique international s'est penché sur cette question, a réuni des experts pour voir de quelle manière, d'abord, qu'est-ce qui risquerait d'arriver, comment essayer de les détecter. Enfin, malheureusement, le dopage bénéficie des progrès technologiques comme la médecine, donc il faut lutter contre. Mais ça, c'est le propre de la science qui n'est pas en soi quelque chose de bien. La science n'est bien qu'à travers ses applications qui sont socialement raisonnables, pas d'une manière générale.
En attendant, la thérapie génique reste quand même quelque chose de très positif. On espère bien, nous, pouvoir en voir les avancées et pouvoir voir ces enfants, en tout cas, être soignés. Merci Alain Fischer d'être venu nous voir. Nous allons vous laisser retourner à l'hôpital Necker où vous traitez les enfants chaque jour, où vous rencontrez les familles, où vous êtes certainement en face de situations délicates. Mmh. Nous vous remercions d'être venu nous voir. Je précise donc que vous êtes professeur de pédiatrie, immunologiste et bien sûr membre de l'Académie des sciences. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.
Merci à vous.